Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Tout de suite, les principaux titres de l'actualité de ce mardi 27 septembre.
À l'ONU, l'ambassadeur nord-coréen fustige les exercices navals sud-coréano-américains en cours. En Corée du Sud, la vice-présidente américaine va se rendre dans la DMZ. Han Duck-soo à Tokyo pour les funérailles nationales de Shinzo Abe. Et enfin, Yoon Suk-yeol préconise une politique basée sur les données pour lutter contre la faible natalité.
Direction tout de suite New York. L'ambassadeur nord-coréen aux Nations Unies a dénoncé les exercices navals que Séoul et Washington ont lancés hier dans la mer de l'Est. S'exprimant hier à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU, Kim Song a affirmé que ces manœuvres conjointes étaient en train d'entraîner la péninsule au bord de la guerre. Il les a qualifiés d'actes extrêmement dangereux, allumant la mèche d'un conflit. Selon le représentant nord-coréen, le régime de Kim Jong-un a récemment adopté une loi autorisant les frappes nucléaires préventives pour se protéger contre une telle politique hostile et la menace militaire des États-Unis et pour défendre la paix et la stabilité. Il a ainsi dégainé la menace américaine pour justifier le développement militaire de son pays. Le diplomate a en outre durci le ton à l'égard des sanctions onusiennes contre le Nord qui, selon lui, avaient été imposées unilatéralement sous la conduite de Washington pour annoncer que le royaume ermite n'a donc pas l'intention d'en prendre acte. Kim a également fustigé le Conseil de sécurité de l'ONU qui débat sur ses mesures punitives pour intervenir dans les affaires intérieures liées au droit d'autodéfense légitime d'un État souverain. Selon lui, cet organe sécuritaire ne joue pas son rôle à sa hauteur pour cause de la politique américaine de deux poids deux mesures. L'ambassadeur n'a pourtant pas fait de remarques particulières sur le gouvernement de Yoon Suk-yeol.
Dans l'actualité internationale, la vice-présidente des États-Unis est attendue ce jeudi en Corée du Sud en marge de sa présence aux funérailles nationales de l'ex-premier ministre japonais Shinzo Abe, organisée aujourd'hui à Tokyo. Durant son voyage sud-coréen, Kamala Harris se rendra aussi dans la zone démilitarisée, la DMZ, qui sépare les deux Corées. Selon la Maison-Blanche, ce déplacement qui aura lieu presque 70 ans après le cessez-le-feu de la guerre fratricide témoignera de la solidité de l'alliance Séoul-Washington et de l'engagement des États-Unis envers la sécurité de la Corée du Sud face à toute menace de son voisin du Nord. Toujours selon la présidence américaine, la visite de sa numéro 2 dans la DMZ sera suivie par un briefing des commandants américains sur les opérations sur place. La vice-présidente rendra ensuite hommage à plusieurs dizaines de milliers de soldats américains et sud-coréens tués pendant le conflit avant de reconfirmer la volonté inébranlable de son pays de défendre les Sud-Coréens.
Au Japon, les obsèques nationales de l'ex-premier ministre Shinzo Abe, assassiné en juillet, ont donc commencé aujourd'hui à 14h, heure locale. Plusieurs milliers d'habitants de marque Nippon et étrangers ont assisté à l'événement. Le gouvernement sud-coréen y a envoyé une délégation conduite par le premier ministre qui s'est rendu ce matin à Tokyo. Han Duck-soo a exprimé ses condoléances à la famille du défunt et au peuple japonais. En marge de son déplacement dans l'archipel, le chef du gouvernement a rencontré la vice-présidente américaine Kamala Harris. Selon le premier vice-ministre des Affaires étrangères Cho Hyun-dong, qui a donné un briefing sur place, lors de cet entretien, Han a transmis les inquiétudes des industriels de son pays à l'égard de l'impact négatif de la loi anti-inflationniste américaine LIRA sur les constructeurs de véhicules électriques de son pays. En réponse, Harris a affirmé être bien informé de leurs préoccupations et d'ajouter que l'administration Biden continuera à chercher les moyens de la faire disparaître pendant la période de transition vers la production de ces voitures aux USA par les groupes automobiles sud-coréens et ce, en travaillant en étroite coopération avec le pays du matin clair.
Toute l'actualité de toute la Corée, c'est ici sur KBS World Radio.
Séoul a donné des explications à Washington sur la polémique autour des propos dits vulgaires censés être tenus par Yoon Suk-yeol à l'égard de Joe Biden et des législateurs américains. D'après un haut responsable gouvernemental, la diplomatie sud-coréenne a clairement expliqué à la Maison-Blanche et au Département d'État américain que les mots en question n'étaient pas à l'adresse des États-Unis. Et le Conseil de sécurité nationale de ces derniers a fait part de sa compréhension, affirmant que cela ne pose pas de problème. Pour cela, l'ambassadeur sud-coréen aux USA, Cho Tae-yong, aurait en personne contacté la présidence américaine aussitôt après que le bureau de Yoon Suk-yeol s'est officiellement expliqué jeudi dernier hors de Washington sur la phrase qui, à ce moment-là, avait déjà déclenché une tempête exponentielle en Corée du Sud. Et son ambassade aurait quant à elle transmis au département d'État l'annonce officielle de la première secrétaire du chef de l'État sud-coréen à la communication, Kim Un-hae. Toujours selon le même responsable, l'administration Biden ni le Congrès américain n'ont réclamé les premiers des explications de Séoul. Ils n'ont pas mis en cause non plus le commentaire controversé. Pour rappel, le président de la République a tenu les propos en question à ses conseillers de manière privée à la fin d'une réunion du Fonds mondial tenue en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. Il pourrait se traduire par « Comment Biden ne pourrait-il pas perdre la face si ces enfoirés ne font pas passer au Congrès ?» Sous-entendu la proposition du dirigeant américain d'augmenter la contribution de Washington au fonds. Les mots officiellement démentis plus tard par la présidente sud-coréenne.
Le président de la République a réuni aujourd'hui son conseil des ministres hebdomadaire au complexe gouvernemental de Sejong dans le centre du pays. L'occasion pour Yoon Suk-yeol de manifester son intention de se démarquer de ses prédécesseurs sur la politique de soutien à la natalité. En effet, le chef de l'État a évoqué la nécessité de réfléchir aux mesures menées dans ce sens par les précédents gouvernements qui s'étaient pendant longtemps seulement focalisés sur la hausse de la natalité. Il a alors précisé que ces 16 dernières années, l'État avait déboursé quelque 280 000 milliards de won, soit 200 milliards d'euros, mais qu'au second trimestre 2022, le nombre de naissances par femme reste toujours inférieur à 1 avec 0,75. Le locataire du bureau présidentiel de Yongsan a d'emblée annoncé qu'il réorganiserait la commission de lutte contre la faible natalité et la société vieillissante afin que cette organisme placé sous son autorité soit désormais à la manœuvre de toutes les solutions possibles pour faire face à la décroissance démographique et à la prolongation de la durée de vie. Et pour le président Yoon, ces remèdes devront être fondés sur les sciences et les données pour être efficaces.
Sur le front sanitaire, la prise de rendez-vous pour l'administration du vaccin bivalent anti-Covid basé sur le sous-variant d'Omicron BA1 a commencé aujourd'hui. Les plus de 60 ans, les personnes au système immunitaire affaibli et les résidents des établissements particulièrement vulnérables comme les EHPAD sont les catégories les plus prioritaires à la vaccination qui débutera le 11 octobre. Ceux qui ne font pas partie de ces groupes tels que les quinquagénaires, les individus présentant des comorbidités ainsi que les plus de 18 ans y seront aussi éligibles s'ils veulent recevoir les doses non utilisées et ce en réservant le jour voulu via les réseaux sociaux ou en téléphonant à la clinique concernée. À en croire les autorités sanitaires, l'efficacité de ce sérum dit amélioré contre les souches BA4 et BA5 est 1,69 fois plus élevée que les vaccins déjà mis au point. Côté bilan quotidien des nouveaux cas de Covid confirmés ces dernières 24 heures, il fait état de quelque 39 000 infections, le plus bas niveau depuis 11 semaines pour un mardi.
Au chapitre économie, le taux d'inflation attendu continue de reculer pour le deuxième mois de suite. Il est retombé à 4,2% en septembre, 0,1 point de moins qu'en août, selon les données publiées aujourd'hui par la Banque de Corée. Cependant, le taux de la hausse des prix ressenti sur les 12 derniers mois reste toujours identique à celui du mois dernier avec 5,1%, le plus haut historique. Par ailleurs, l'indice du moral des consommateurs, calculé par la Banque centrale a repris 2,6 points pour s'élever à 91,4 points. Explication à cela, en dépit de l'incertitude sur la politique monétaire et de l'activité économique des principaux pays, le marché de l'emploi et les services en présentiel restent relativement stables et le cours du baril à l'international baisse. Par conséquent, la flambée des prix ralentit légèrement.
C'est une nouvelle étape pour la vente du constructeur naval sud-coréen Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering, DSME. Son premier créancier, en l'occurrence la Korea Development Bank, la KDB, a annoncé hier avoir signé avec le groupe Hanwha un accord d'investissement conditionnel qui prévoit notamment l'émission de nouvelles actions payantes de l'ordre de 2000 milliards de won, l'équivalent de plus de 1,4 milliard d'euros. Si ce protocole se concrétise, le géant de la construction navale sera contrôlé à 49,3% par l'acquéreur potentiel et les parts de la KDB seront réduites à 28,2%. Pourtant, la vente n'est pas forcément déterminée puisque le conglomérat Hanwha n'est pour le moment que le négociateur prioritaire. La décision finale sera prise s'il n'y a pas d'autre candidat à la reprise du chantier qui propose une meilleure offre. Si tel est le cas, le 7e groupe d'affaires de Corée du Sud pourra racheter DSME à un prix modique. Cela suscitera une polémique. La KDB s'est cependant défendue de chercher un repreneur privé capable d'augmenter l'efficacité des investissements et de la gestion afin de minimiser les pertes pouvant être infligées aux Sud-Coréens. Ce n'est pas la première fois que Hanwha veut reprendre le chantier naval de Daewoo. Sa première tentative non réussie date de 2008. À l'époque, il avait proposé 6 000 milliards de won ou 4,3 milliards d'euros pour l'acquérir. C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Yunhae Jung et Maxime Lalo. Merci de votre fidélité et bonne soirée sur KBS World Radio.